Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Aujourd'hui, nous allons réfléchir au sens d'un psaume, le psaume 1. Brigitte va le lire et ensuite Étienne nous rejoindre sur le plateau pour nous aider à le comprendre.
Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes.
Merci Brigitte et bonjour à Étienne. Merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver.
Aujourd'hui, et pour la troisième fois, nous revenons sur le psaume 1. Étienne, qu'avons-nous déjà appris?
Nous voulons tous trouver le bonheur, mais comment y parvenir? Ce psaume nous rappelle que nous avons des choix à faire dans la vie. C'est comme si nous nous trouvions sur une route et que, tout à coup, elle se divise en deux. Nous pouvons alors choisir le chemin qui mène à droite ou celui qui mène à gauche. Selon le psaume 1, l'un des chemins consiste à suivre les conseils et les propositions, à première vue attrayantes, des méchants. Cependant, l'auteur du psaume nous met en garde, car un tel chemin nous conduira à la ruine. Toutefois, emprunter l'autre chemin consiste à mettre la Bible au cœur de notre vie et de la méditer, afin qu'elle nous nourrisse et nous façonne. La Bible est comme un trésor qui nous apporte le véritable bonheur, celui qui nous permet de connaître Dieu.
Merci. Et de quoi allons-nous discuter aujourd'hui ?
Nous allons parler de l'image que nous trouvons au verset 3, que je relis. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous allons donc parler de l'image d'un arbre planté près d'un cours d'eau. Et je précise, dès le départ, que seuls celles et ceux dont la Bible est au cœur de leur vie spirituelle ressembleront à cet arbre.
Donc l'arbre est une image qui représente le croyant. Mais que dire du cours d'eau?
L'eau est essentielle à la vie, elle est source de vie. Pour cette raison, je pense que c'est une image qui dépeint Dieu. Un arbre développe des racines en terre à la recherche d'eau, et cette eau permet à l'arbre de pousser et de produire de fruits. Nous pouvons dire qu'en méditant la Bible, le croyant est comme ses racines cherchant à puiser de l'eau. En lisant la Bible, le croyant trouve Dieu. Il le découvre et ce Dieu le revitalise. Il est la source de vie qui lui permet de grandir spirituellement, d'être fort et de produire du fruit. Plus tard, dans le psaume, les méchants sont comparés à la paille que le vent disperse. La paille ne possède aucune racine. Elle est donc dépourvue de vie et ne résiste pas au vent. Par contre, un arbre planté près d'un cours d'eau s'y trouve bien enraciné. Il est vigoureux et résiste au vent et aux intempéries. Celle ou celui qui médite la Bible trouvera la vie, la vraie vie, la vie abondante, la vie spirituelle et éternelle qui consiste essentiellement à connaître Dieu. Par contre, celle ou celui qui emprunte le chemin des méchants et des moqueurs et qui écarte la Bible de sa vie se privera de cette véritable vie et du bonheur et, comme je l'ai déjà dit, son chemin aboutira à la ruine.
Merci. Revenons donc sur cette image de l'arbre planté près d'un cours d'eau et creusons-la un peu plus. Car il est dit de cet arbre qu'il produira du fruit et que son feuillage ne se flétrit pas.
Il faut préciser que l'auteur du psaume vivait dans le pays d'Israël et là, beaucoup de régions sont arides et désertiques. Le sol s'assèche rapidement. De ce fait, pour produire du fruit et maintenir un feuillage verdoyant, les arbres doivent être plantés près d'une rivière. En cet endroit, ils bénéficieront d'une source d'eau constante et ils survivront toutes les fois qu'une chaleur ardente frappera et même lorsque la sécheresse sévira. Et non seulement de tels arbres survivront, mais ils produiront du fruit grâce à leur proximité de la source d'eau inépuisable. Ceci est une illustration pertinente de la vie du chrétien. Dieu nous appelle à grandir graduellement vers une maturité en Christ, et tout comme il faut du temps à un arbre pour pousser, il nous faut du temps aussi. Et je pense que cette maturité à laquelle nous sommes appelés présente deux facettes qui reflètent l'image de l'arbre trouvé dans le psaume 1.
Quelles sont ces deux facettes caractérisant la maturité chrétienne?
La première consiste à demeurer fort et fidèle dans la foi, même en période d'épreuves difficiles. Elle représente la capacité de tout endurer patiemment sans s'arrêter sur le chemin des méchants et des moqueurs, sans abandonner la foi en Jésus. Le signe de notre maturité en Christ est que notre feuillage ne flétrit pas sous le soleil ardent. Autrement dit, notre foi ne s'écroule pas sous le poids des soucis, des chagrins et des luttes quotidiennes. Toutefois, nous ne pouvons pas faire face seuls aux épreuves en nous appuyant sur nos propres efforts. Non, notre foi survivra au temps d'épreuves, immuable seulement dans la mesure où le Dieu Tout-Puissant nous fortifiera et nous nourrira. Et pour puiser dans les forces du Tout-Puissant, nous devons rester près de lui et nous devons, tout comme l'arbre, développer des racines vers lui. Le psaume 1 nous apprend que c'est en méditant la Bible que nous nous abreuvons d'eau divine et que les forces du Tout-Puissant nous vivifient et nous fortifient, même dans les luttes pénibles et douloureuses. Tout comme l'arbre dépend du cours d'eau pour survivre, nous dépendons de Dieu. Toutes les fois que nous méditons sa parole et nous tournons vers lui. Par la puissance de Dieu, nous pouvons tout endurer et tout surmonter tout en lui restant fidèles.
Merci pour cette leçon importante. Cependant, l'auteur du psaume nous dit aussi que cet arbre donnera du fruit en sa saison. Que veut-il dire par là?
Oui, beaucoup d'arbres donnent du fruit agréable à manger. Nous pouvons penser aux manguiers, aux figuiers, aux bananiers par exemple. De la même manière, celle ou celui qui médite la parole de Dieu produira lui aussi du fruit. Ainsi, le deuxième aspect caractérisant la vie chrétienne est celui de porter du fruit.
Je sais qu'il s'agit d'une image, mais que désigne-t-elle? Quel fruit le croyant est-il censé produire?
Il s'agit du fruit d'une vie juste, il s'agit du fruit d'un bon caractère. Prenons deux exemples bibliques qui nous aideront à mieux comprendre cette notion du fruit. D'abord, je pense à l'évangile de Luc au chapitre 3 et au verset 8, qui nous exhorte en ces termes. Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. D'autres traductions plus anciennes de la Bible parlent des fruits de la repentance. Ce sont les paroles du prophète Jean-Baptiste qui préparait le peuple à l'arrivée de Jésus-Christ. Sous le ministère de Jean-Baptiste, beaucoup de personnes affirmaient vouloir revenir à Dieu. Mais selon les prophètes, ces personnes devaient prouver l'authenticité de leur foi en poursuivant la justice de Dieu et en portant le fruit d'un véritable changement de comportement. Jean-Baptiste nous donne trois exemples concrets pour illustrer ses propos. Écoutons les versets 10 à 14 du troisième chapitre de Luc.
La foule l'interrogeait : Que devons-nous donc faire ? Il leur répondit : Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser et lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion ni tort envers personne. » Et contentez-vous de votre solde. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine.
Voyez-vous, un soldat peut facilement abuser de son pouvoir en exploitant et en maltraitant les citoyens qu'il est censé protéger. Alors tout soldat qui veut venir à Dieu doit rejeter de tels comportements. Les collecteurs d'impôts aussi abusaient de leur position en s'enrichissant sur le dos des contribuables. De même, toute personne qui a soif de Dieu doit cesser toute pratique corrompue. Enfin, Jean-Baptiste s'adresse à chacun. Il nous appelle à sortir de notre égoïsme naturel pour devenir des personnes généreuses, soucieuse du bien-être des nécessiteux. Voici des exemples du fruit de la repentance que le croyant doit chercher à produire. Il n'est pas difficile de penser à d'autres exemples pertinents dans notre culture, dans notre propre situation et notre propre vie.
Merci Étienne. Et vous allez, je le pense, citer un autre texte biblique qui nous aidera à comprendre quels sont les fruits que le croyant devrait porter.
C'est exact, Yann. Et cette fois-ci, je viens citer les écrits de l'apôtre Paul, et plus précisément sa lettre adressée aux Galates. Écoutons le verset 22 du chapitre 5.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.
Ici, il s'agit du fruit d'un bon caractère. Paul nous donne une liste de qualités que le croyant doit aspirer à reproduire.
Mais Paul précise qu'il s'agit du fruit de l'esprit. Que voulait-il dire par là?
D'abord, Paul voulait dire que ces qualités reflètent le caractère de Dieu, un caractère que nous découvrons clairement Jésus-Christ. Oui, Jésus est amour, il fait preuve de patience, de bonté et de douceur. Ses désirs, ses paroles et ses gestes sont un véritable modèle. Et Jésus incarne le caractère de Dieu parce que l'Esprit de Dieu l'habite et l'anime. Ensuite, Paul voulait dire que naturellement, nous avons beaucoup de mal à produire ce fruit d'un bon caractère. De ce fait, nous avons besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui progressivement produira ce fruit en nous. C'est grâce à l'Esprit de Dieu que graduellement, nous ressemblerons davantage à Jésus-Christ. Mais une question se pose. Comment favoriser cette œuvre de l'esprit qui consiste à produire en nous un bon caractère?
Vous avez sans doute une réponse.
Oui, et nous revenons au psaume 1 et à cette image de l'arbre planté près d'un cours d'eau. En fait, c'est lorsque nous méditons la Bible que nous permettons à l'esprit d'agir. Un arbre a besoin d'eau pour porter du fruit et ses racines se développent pour la puiser. De la même manière, nous avons besoin de l'esprit pour faire des progrès et vivre avec un caractère qui reflète les qualités de Dieu. L'esprit est comme l'eau, et pour le chercher, nous avons besoin de méditer la parole de Dieu en lisant la Bible. C'est par la parole de Dieu que l'esprit nous façonne et nous nourrit, et qu'il produit en nous le fruit d'un bon caractère.
Merci Étienne, c'est ainsi que nous terminons nos réflexions sur le psaume 1. Nous vous remercions pour votre participation lors de ces trois dernières émissions. Nous avons surtout appris que la Bible doit tenir une place importante dans notre vie, si nous voulons faire des progrès, si nous voulons être des chrétiennes qui demeurent forts et fidèles, des chrétiens qui portent du fruit.
Merci Yann, merci de m'avoir permis de vous faire part de ces réflexions. Je dis au revoir à tous.
La prochaine fois, nous commencerons une nouvelle série d'émissions. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.